Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Vivement la fin du mois, c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement que vous pourrez mesurer de manière précise si vous êtes dans le camp de ceux qui gagnent un peu plus ou de ceux qui gagnent un peu moins. Dans le premier cas, il y a de grandes chances que vous soyez un salarié du privé. Dans le second, vous êtes probablement à la retraite. En cause, la CSG, la contribution sociale généralisée. Hier, 1er janvier, elle a augmenté de 1,7 point, mais une augmentation compensée, en partie seulement pour l'instant, par la suppression de la part salariale des cotisations maladie et chômage. Autrement dit, ce que vous perdez d'un côté, vous pouvez le regagner de l'autre, en fonction de votre situation. Alors, cette mesure fiscale faisait partie du projet de loi de finances adopté par le Parlement le 21 décembre. À première vue, il s'agit avant tout d'une mesure technique, d'autant plus difficile à appréhender que son impact sur le pouvoir d'achat reste à préciser, mais elle est sans doute bien plus que cela en ce qu'elle révèle une nouvelle philosophie de la politique fiscale menée par le gouvernement. S'il n'est pas question officiellement de grand soir comme par le passé, les changements, eux, sont profonds. Alors, hausse de la CSG, est-ce l'impôt qui cache la forêt ? Eh bien, pour en discuter, nous avons convié ce soir deux économistes. Jean-Marc Daniel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à ESCP Europe. Vous avez publié cette année chez Talendier « Les impôts, histoire d'une folie française ». Et vous connaissez bien notre deuxième invité, puisque j'ai appris il y a un instant que vous aviez participé, que vous participiez régulièrement à une émission tous les deux sur BFM Business qui s'appelle comment ?
La librairie de l'écho, et qui est enregistrée tous les mardis.
Voilà, et qu'on peut voir le mercredi, si j'ai bien compris, Christian Chavagneux, c'est bien ça ?
Et quelques autres jours aussi.
Bon, voilà. Bonsoir Christian Chavagneux.
Bonsoir.
Vous êtes éditorialiste à Alternative Économique. Vous, votre dernier ouvrage, si j'ai bien noté, c'était chez Casterman en 2016, Les aventuriers de la finance perdue. Alors avec vous deux, on va donc parler de cette hausse de la CSG qui a donc eu lieu hier, plus 1,7 point, et voir en quoi donc c'est symptomatique peut-être d'une nouvelle philosophie fiscale menée par le gouvernement. Ce qu'il faut peut-être d'ailleurs commencer par dire, c'est que cet impôt, la CSG, la contribution sociale généralisée, qui est assez récente, ça date de 1991, qui était normalement au début prévu comme étant un impôt transitoire et indolore, ça ne devait pas durer, et en plus ça ne devait pas beaucoup pesé, enfin en tout cas c'est peut-être comme ça que ça avait été vendu au début. On en est quand même très loin aujourd'hui, hein, Christian Chavagneux.
Je crois que c'était très clair dans l'entourage de Michel Rocard que la CSG était destinée à se substituer aux cotisations sociales. En France, on a un impôt sur le revenu qui rapporte très peu par rapport aux autres pays. L'idée, c'était d'avoir un autre impôt sur le revenu complémentaire qui était censé devenir de plus en plus progressif. Aujourd'hui, elle est proportionnelle. Donc, voilà, quel que soit votre niveau de revenu, vous payez le même pourcentage de CSG. Mais je pense que c'était très clair dès l'origine que c'était un impôt qui devait finir par devenir progressif, voire par se substituer à l'impôt sur le revenu et être assis surtout sur une base beaucoup plus large que l'impôt sur le revenu, puisque les revenus des salaires, mais aussi les revenus du capital sont touchés.
C'est d'ailleurs devenu un impôt qui rapporte beaucoup plus que l'impôt sur le revenu, avec l'augmentation qui a eu lieu hier. Jean-Marc Daniel, on devrait avoisiner les 120 milliards d'euros par an. L'impôt sur le revenu, c'est un peu plus de 70 milliards.
Oui, c'est ça. Il faut bien voir que la CSG en 2017 aura rapporté 98-99 milliards d'euros. Et là, non, elle devrait rapporter en 2018 120 milliards d'euros. C'est-à-dire que 1,7 point de CSG, en réalité, c'est une augmentation de 20% de la collecte réalisée au titre de cet impôt. Sur le plan purement technique, entre guillemets, c'est quand même un impôt qui a une composante progressive, puisque une des idées initiales de Michel Rocard, c'était qu'elle n'était pas déductible de la base de l'impôt sur le revenu. Mmh. Et donc, en réalité, ce que l'on paie, on paie la CSG plus l'impôt sur le revenu. Sur la CSG, et quand on est dans les tranches supérieures, on paie plus d'impôt sur le revenu sur cette CSG. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, c'est un impôt qui a eu du mal à accoucher. C'est-à-dire qu'il s'est heurté à une opposition de pratiquement tous les partis politiques, sauf le Parti Socialiste, et même au sein du Parti Socialiste, Pierre Bérégovoy, qui était à l'époque ministre de l'Économie et des Finances, avait mené une fronde interne contre la CSG. Il avait fallu que le président de la République, François Mitterrand, dise qu'il fallait aller jusqu'au bout. Il y a eu une motion de censure, à l'époque où Michel Rocard n'avait pas de majorité, il gouvernait par le 49-3, et cette motion de censure a atteint 284 voix, alors que la majorité était à 289. Donc elle est passée ric-rac. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, tous les gens qui ont voté contre la CSG n'ont eu de cesse que de l'augmenter ou de la copier, parce que la CRDS, la contribution de remboursement de la dette sociale, qui a été créée par le gouvernement Juppé, est une copie de la CSG. Donc, c'est un très bon outil qui a été présenté de façon systématiquement négative au départ, alors que tout le monde voit bien que c'est vers ça qu'il faut orienter la fiscalité.
Alors, on va voir justement si tout le monde est d'accord, en tout cas si Christian Chavagneux est d'accord avec ça. C'est vrai qu'au départ, ceux qui contestent cette CSG contestent le fait que ce soit une mesure de justice sociale, comme le défendait justement Michel Rocard. Écoutez ce reportage, un extrait d'un reportage qui date du 7 novembre 90. C'est un extrait du JT de France 3. On est en plein débat justement sur la création de cette contribution sociale généralisée.
Ambiance de répétition générale pour Michel Rocard cet après-midi à l'Assemblée nationale. À une semaine de l'examen de son projet de contribution sociale généralisée, le Premier ministre a pu se faire une idée de l'état de mobilisation des nombreux adversaires de la CSG. À gauche d'abord avec le PC qui lui en demandait le retrait. Réponse ironique mais ferme du Premier ministre.
Non, Monsieur Bocquet, je ne vais pas retirer le projet de contribution sociale généralisée. La CSG est fort loin de ressembler à l'épouvantable caricature que vous en faites. Elle est une mesure de justice sociale, de solidarité, et elle apporte dans le fonctionnement de la sécurité sociale un peu plus de démocratie par la délibération annuelle de cette Assemblée sur une partie des ressources.
L'opposition de son côté verrouille ses rangs en vue du vote d'une motion de censure. Une opération qui, malgré quelques grincements de dents centristes, ne devrait pas poser de problème majeur. Même Philippe Séguin, initialement favorable à une forme de CSG, s'oppose vivement aux modalités du projet Rocard.
Il a donc fallu passer par le 49.3 pour faire adopter cette réforme. Christian Chavagneux, est-ce que c'est un impôt qui, contesté à ses débuts, a fini par faire l'unanimité? Ou bien est-ce que ce reproche d'un impôt qui irait contre la justice sociale parce qu'il est proportionnel et pas progressif, ce reproche tient encore aujourd'hui?
On voit bien, l'histoire nous a montré que, Jean-Marc l'a signalé tout à l'heure, tous les partis politiques se sont saisis de cet outil parce que c'est un outil extrêmement efficace pour faire rentrer des recettes dans les caisses de l'État. Je pense que l'aspect proportionnel reste un problème. Et encore une fois, il me semble que c'était très clair autour de Michel Rocard pour que cet impôt devienne progressif.
Est-ce que ça en fait un impôt injuste, le fait qu'il soit proportionnel?
À la déductibilité près que signalait Jean-Marc, ça en fait un impôt, oui, qui est en partie injuste. Tout impôt proportionnel est injuste. C'est comme la TVA. Plus vous en consommez, alors je vois que Jean-Marc commence à tiquer, parce que bien évidemment, pour tous les libéraux, la TVA, plus vous êtes riche, plus vous dépensez, plus vous payez de TVA, donc c'est proportionnel. Pas du tout, puisqu'on sait très bien que la part de la consommation dans les dépenses des riches est bien plus faible que celle dans les dépenses des pauvres. C'est en cela que la TVA est un impôt qui n'est pas du tout en faveur de la justice sociale. Et la CSG, je pense que ce sera une des réformes qui vont venir. On va rendre la CSG progressive, ça me paraît le sens de l'histoire.
On reviendra d'ailleurs dans un instant sur la question de la proportionnalité de l'impôt ou de sa progressivité, parce qu'il y a aussi d'autres mesures de la politique fiscale du gouvernement qui ont trait justement à cette dimension-là. Pour rester encore un petit peu sur la CSG, donc instrument intéressant pour tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, parce que ça permet de faire rentrer des nouvelles recettes. Est-ce que c'est en fonction des recettes attendu qu'a été décidé le niveau d'augmentation de la CSG, Jean-Marc Daniel, donc plus 1,7 point.
Oui, le calcul de 1,7 point est très minutieux au départ dans le programme d'Emmanuel Macron. 1,7, c'est pas un chiffre naturel, on doit imaginer 1,5 ou 2, quelque chose d'assez carré. Et donc, en fait, il y avait une réflexion qui était une réflexion menée par ses équipes qui consistait à considérer qu'il fallait financer deux choses. La première chose était la baisse des cotisations assurance maladie des salariés du secteur privé, et la deuxième chose, c'était la refonte et la réforme de l'UNEDIC, y compris l'extension de l'UNEDIC aux travailleurs indépendants. Et donc, le calcul qui avait été fait à l'époque était un calcul où il fallait trouver entre 21 et 22 milliards, et donc c'est comme ça qu'on a établi le taux de CSG. Ce qui est intéressant depuis, et ce que je trouve un peu inquiétant, c'est que le gouvernement a du mal à assumer cette logique initiale du programme du président de la République, puisque chaque fois que des gens vont voir un ministre, ou monsieur Darmanin, ou on leur dit, mais rassurez-vous, on va compenser. Ce qui est d'abord sur le plan intellectuel, c'est absurde. Si on augmente pour vous...
Vous l'avez dit, la compensation, elle était prévue dès le départ.
Oui, en tout cas pour les salariés du privé. La compensation, elle était prévue pour les salariés du secteur privé, avec cette idée qu'il y avait une sorte d'effort à partager, et que pour redresser l'économie française, l'effort des salariés du privé, c'était d'abandonner des droits. et ils ont abandonné des droits au travers des ordonnances, c'est-à-dire le code du travail était réformé, dans un sens qui normalement va permettre de réduire le chômage, donc il y a des gens qui sont les gagnants, qui sont les chômeurs, et ça c'est l'objectif de toutes les mesures qui sont prises en ce moment. Ensuite, il y a des gens qui abandonnent des droits, et il y a des gens qui vont abandonner des revenus. Ceux qui abandonnaient des droits, c'était les salariés du privé, en échange, on leur donnait une compensation sous forme de revenus, et puis ceux qui abandonnaient des revenus, c'était les retraités et les fonctionnaires. Or, cette logique-là a complètement disparu, c'est-à-dire la logique de l'effort, la logique de « on va vous demander quelque chose pour redresser la situation globale du pays » n'est plus du tout à l'ordre du jour. Donc c'est une espèce d'approximation permanente, on essaie de compenser. Je vais prendre un exemple simple. Dans les fonctionnaires sont, depuis 1982, appelés à contribuer à l'équilibre de l'UNEDIC au travers d'un fonds de solidarité, un prélèvement qui représente 1% de leur salaire. Personne n'en avait parlé, sauf que dans la négociation, finalement, ils ont dit « mais puisque l'UNEDIC va changer, il n'y a pas de raison pour qu'on continue à payer ». Et donc le gouvernement, alors que ça n'avait pas été prévu initialement, a accepté qu'on supprime ce fonds de solidarité. Donc les fonctionnaires sont moins impactés que ce qui avait été annoncé initialement.
Christian Chavannes, oui. C'est la logique des droits rêvés par le libéral Jean-Marc Daniel. C'était pas du tout ça. On avait une hausse de la CSG à 1,7% qui était censée ramener 22 milliards, alors qu'on diminuait les cotisations sociales des salariales de 3,15% qui était censée ramener 17 milliards. On avait 5 milliards qui étaient destinés aux indépendants, à l'UNEDIC, à compenser les fonctionnaires, à compenser tous ceux qui ne payent pas de cotisations et qui n'avaient pas bénéficié de la baisse des cotisations, mais qui allaient voir leur CSG augmenter.
Donc c'était déjà prévu dans la logique du projet.
Donc c'était tout à fait inclus déjà dès le départ que certains ne devaient, et surtout on ne devait pas perdre, l'effet de redistribution ne devait pas impacter grand monde, sauf, et Jean-Marc l'a dit, les retraités riches, dont je signale que pour le gouvernement, un retraité riche c'est quelqu'un qui gagne plus de 1350 euros par mois.
Et voilà, est-ce que cette logique de la compensation, Christian Chavagneux, elle est tenue aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que globalement, pour la majorité des gens qui sont soumis à la CSG, c'est-à-dire c'est quand même l'assiette, sans doute, une des assiettes la plus large, oui, peut-être avec la TVA, elle est encore davantage, mais est-ce que cette compensation, tout le monde va globalement bénéficier? La plupart des gens vont avoir une augmentation soit de leur salaire, soit en tout cas pas d'impact sur leur pension de retraite.
Pour les salariés du privé, il va y avoir un petit gain de pouvoir d'achat. On va augmenter moins la CSG qu'on a supprimée de cotisation. Donc pour eux, ça va. Les fonctionnaires, le gouvernement a dit qu'il voulait exactement compenser. Donc pas de gain, pas de perte. Pour les retraités, il y a des retraités qui ne payent pas déjà la CSG. Donc ceux-là ne seront pas impactés. Il y a ceux qui sont à la CSG réduite à 3,8%. Pour ceux-là, ça ne change rien. Mais pour les 8 millions de retraités qui gagnent plus de 1350 euros par mois, alors eux, ils vont voir leur taux de CSG augmenté, ils vont prendre un 7 points, hein, de 6,6 à 8,3, et eux, ils vont clairement perdre en pouvoir d'achat.
Est-ce qu'il n'y a quand même pas quelque chose d'un petit peu illogique pour les retraités, Jean-Marc Daniel, de voir donc une partie des cotisations salariales qui alimentent l'assurance chômage être prise en charge par la CSG, donc être payée par des retraités, c'est-à-dire par des gens qui, a priori, ne vont plus se retrouver au chômage, sinon ils ne seraient pas à la retraite?
Oui, exactement. Oui, je pense qu'il y avait une logique intellectuelle dans tout ça. Je maintiens qu'il y a une logique de répartition des efforts. Et maintenant, il y a une logique des rapports de force. Et il est clair que le retraité, par définition, a un rapport de force, représente un rapport de force faible. On a assez. Bon, il y a de temps en temps des manifestations de retraités, mais ce ne sont pas des enjeux, je dirais, sociaux très très violents. Le retraité est un électeur et de plus en plus. Et donc, il faut le ménager. Mais il n'a pas une capacité de contestation et de remise en cause de la société telle que peuvent l'avoir les gens qui vont faire grève. Donc, par ailleurs, encore une fois, je maintiens que le gouvernement a du mal à assumer toute l'organisation de sa politique. On le voit bien dans la polémique qu'il y a eu entre l'INSEE, enfin la polémique, le rappel à l'ordre un peu étrange fait par le gouvernement à l'égard de l'INSEE. L'INSEE disant, compte tenu du phasage dans le temps de vos mesures, on va conduire à une baisse du pouvoir d'achat de 0,6 points. Et le gouvernement dit, pas du tout, on va augmenter le pouvoir d'achat. Et c'est assez surprenant de la part d'un gouvernement qui n'arrête pas de dire, on est là pour gérer dans le vrai, on est là pour ne pas faire de démagogie, on est là pour dire aux gens qu'elle est effectivement l'effort qu'on va leur demander pour améliorer une situation qui est une situation qui est détériorée. Cette idée que tout le monde va gagner est une idée qui n'était pas au départ dans le discours initial du président de la République. Il disait, je suis là pour vous dire la vérité et pour vous appeler à faire un effort. Et maintenant, on a un discours qui consiste à dire, mais rassurez-vous, personne ne va payer, personne ne va avoir de conséquences négatives de ce que je fais. Je pense que c'est assez irresponsable.
En même temps, l'argument que vous évoquiez tout à l'heure en disant, finalement, il y a les salariés du privé qui vont perdre des droits avec la réforme du droit du travail. Je ne suis pas sûr que ce soit un argument qu'on ait quand même beaucoup entendu du côté de la majorité. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que si la majorité avait dit, bah voilà, cette réforme du travail, elle va consister à vous enlever des droits, donc on compensera par du pouvoir d'achat.
Ça n'a pas été présenté comme ça. On vous a demandé un effort. C'est pas dire on va vous cogner, c'est on va vous demander un effort, ce qui est une présentation plus habile.
Sur la polémique avec l'INSEE, c'est quand même assez grave. Hein. L'INSEE dit vous allez perdre, toutes choses égales par ailleurs, 4,5 milliards de pouvoir d'achat. Et le gouvernement arrive en disant vous allez gagner 5,5 milliards. Ça veut dire qu'il y a un écart de 10 milliards. C'est pas un écart de quelques centaines de millions. Ça veut dire que soit l'INSEE s'est complètement trompé, et alors attention à nos hauts fonctionnaires qui font les stats publics, soit le gouvernement joue un rôle autoritaire assez dangereux. Rappelons-nous quand même, il y a 10 ans à peu près, Nicolas Sarkozy virait le patron de l'INSEE parce que il ne se conformait pas à ce que voulait le pouvoir politique. Donc attention à ce jeu autocratique sur le débat politique.
Il n'y a pas aussi une question de calendrier, c'est-à-dire la compensation, comme elle va se faire en plusieurs temps.
Non, mais l'INSEE prenait en compte le fait que la compensation se faisait en plusieurs temps. C'est juste qu'à structure de consommation égale, il est évident qu'il y a une perte de pouvoir d'achat. Et là, le gouvernement n'a pas voulu le comprendre. En même temps, il nous dit j'augmente la taxe sur le tabac, ça va faire diminuer la consommation de cigarettes. Donc, les gens vont en acheter moins, ils vont moins subir la hausse. Mais ils vont en acheter moins de combien? 1%, 5%, 10%. C'est pour ça que comme l'INSEE n'a pas de boule de cristal, l'INSEE répond en disant bah voilà, structure de consommation égale, ça fait tant. Et là, moi, je crains un peu quand même que l'autocrate Macron ne s'impose trop dans le débat politique.
Bon alors, cela dit, au-delà de cette polémique, Christian Chavagneux, elle est où la logique dans le fait de compenser une augmentation d'impôts par une baisse de cotisation? C'est-à-dire, est-ce que l'idée, c'était vraiment de faire une opération neutre pour peut-être clarifier un système?
L'idée, c'est de changer le mode de financement de la protection sociale. Et surtout, à l'origine, de l'assurance maladie. La CSG, elle a été un peu pensée pour ça. Lionel Jospin, rappelons-nous, au moment où Lionel Jospin prend le pouvoir en 97, 75% de la protection sociale est financée par les cotisations qui portent sur le travail. Lionel Jospin entame la bascule du financement de la protection sociale des cotisations vers la CSG, on passe à 60%. Et là, depuis, on l'avait un peu stagné et Emmanuel Macron remet une couche qui va dans ce sens-là. Pour l'assurance maladie, c'est vraiment la poursuite de ce que Rocard, Jospin voulait. Pour le chômage, c'est une révolution totale. Le fait qu'on supprime des cotisations chômage assises sur le travail, chômage-travail, on voit bien qu'on assure un risque hein, lorsqu'on est au travail, et qu'on le remplace par la CSG, là, c'est une révolution totale. On déconnecte les prestations qui sont versés par Pôle emploi, des cotisations. Ça veut dire que si on déconnecte ce qui est payé pour payer les chômeurs en termes de cotisations et ce qui est donné, ça veut dire que si ça dépend de la politique fiscale du gouvernement et si ça dépend des choix de l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'on va pouvoir baisser les prestations aux chômeurs. Moi, c'est ça ma crainte, c'est que lorsqu'on substitue du financement par cotisation sociale, du chômage par de la CSG, demain, on nous dise bah, on va baisser les recettes de l'Unédic et donc eh ben, il faudra baisser les prestations aux chômeurs.
Que vous partagez cette crainte, Jean-Marc Daniel?
Ce que je partage comme crainte, et là où je rejoins Christian Chavagneux, c'est le fait qu'effectivement, on est en train de dessaisir les gestionnaires traditionnels de l'État-providence de leur pouvoir. La grande différence qu'il y a entre la période où Michel Rocard s'exprimait dans l'extrait que vous avez diffusé aujourd'hui, c'est qu'entre-temps, il y a le PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'autorité politique qui va déterminer, à la place des partenaires sociaux, comment on gère l'État-providence et comment on gère la sécurité sociale. Et l'organisation de l'UNEDIC, qui était encore une organisation très paritaire, avec des négociations auxquelles d'ailleurs les partenaires sociaux tiennent tellement que même le MEDEF a consenti une légère hausse des cotisations l'année dernière qui était symbolique, mais pour bien montrer qu'ils étaient très attachés à la survie du régime paritaire de l'assurance chômage. Or, la logique et la démarche d'Emmanuel Macron, c'est de dire que finalement, après le plan Juppé, après tout ce que l'on a vécu sur ces dernières années, l'organisation paritaire de l'État-providence est une fiction. C'est-à-dire, qui connaît ce que je cite assez souvent, c'est que les caisses primaires d'assurance maladie sont censées être gérées par des représentants des malades. Et les présidents de caisses primaires d'assurance maladie sont des représentants des assurés. Qui connaît le nom de son président de caisse primaire d'assurance maladie? Ce sont des gens donc qui sont le résultat de ce qui est devenu une véritable fiction. Et donc l'idée d'Emmanuel Macron, c'est d'aller plus loin et de porter véritablement vers une nouvelle mode de gestion au travers d'un financement qui sera un financement plus proche de l'impôt et au travers d'une gestion qui sera une gestion qui sera plus proche de ce qu'est une gestion assise sur l'impôt.
Est-ce que vous pensez, Jean-Marc Daniel, que cette gestion elle sera meilleure si c'est l'État qui l'assure, c'est-à-dire une nationalisation, là en l'occurrence de l'assurance chômage, c'est vers ça qu'on se dirige plutôt que si c'est fait par les partenaires sociaux?
Non, je ne pense pas. Je pense que dans les deux cas ce sera une période à la fois de bricolage, de rafistolage et de gabegie et que la seule solution de rendre ce système efficace c'est de le mettre en concurrence. Je pense que la seule solution pour la sécurité sociale, c'est de faire de la sécurité sociale actuelle ou de l'UNEDIC l'opérateur historique de la privatisation future de la gestion du risque maladie, du risque vieillesse et du risque chômage. Après tout, alors tout le monde met en avant des exemples hyper négatifs comme les États-Unis en disant c'est monstrueux, ça coûte beaucoup plus cher. Mais nos voisins suisses ont un système avec des mécanismes de concurrence qui est un système qui est à la fois équilibré parce que le système a généré énormément de dettes. Et des problèmes de l'UNEDIC, une des raisons pour lesquelles le gouvernement est appelé à se prononcer sur ce qui se passe à l'UNEDIC, c'est parce qu'il y a 30 milliards de dettes à l'UNEDIC.
Et pourquoi il y a 30 milliards de dettes à l'UNEDIC, Jean-Marc Daniel ? Vous le savez bien, c'est pas parce que le système fonctionne pas bien. Vous savez,
il y a plus de constate qu'il y a quand même 30 milliards de dettes à l'UNEDIC.
Oui, mais pourquoi ? Il y a plus de prestations sociales qui sont versées que de cotisations, qui sont touchées que de prestations qui sont données. Le système, il est excédentaire. Il faut savoir, l'assurance chômage dans ce pays, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est excédentaire. Sauf que le gouvernement, quand il y a des excédents et qu'il a besoin de combler les déficits, il va piquer de l'argent à Pôle emploi et notamment il s'en sert pour, à l'UNEDIC et notamment il s'en sert pour financer Pôle emploi, le service public de l'emploi. Que le service public de l'emploi soit financé par l'impôt, c'est un service public, finançons-le par l'impôt. Mais le système de l'UNEDIC lui-même, encore une fois, il y a plus de cotisations versées que de prestations données. Ça veut dire qu'il est excédentaire.
C'est une réponse à votre question. Quand l'État se mêle de vouloir gérer quelque chose, au lieu de répondre aux attentes de la population et des chômeurs, il
en profite. Mais non, c'est pas du tout ce que je dis.
Si, il en profite, l'État en profite pour capter une partie des cotisations, pour faire vivre une partie de ses services. Et donc, je pense que si c'était entre les mains du secteur privé, on échapperait.
Ce serait pire.
Pas du tout. En termes financiers. On échapperait à ce genre de gabegie, de détournement et d'irresponsabilité.
Mais est-ce qu'on pourrait y voir peut-être justement dans cette façon de faire passer les cotisations, alors les cotisations de l'assurance chômage sur l'impôt, donc sur la CSG, une stratégie qui correspond à ce que vous défendez, Jean-Marc Daniel, c'est-à-dire peut-être pour l'État d'abord de récupérer justement la gestion de l'assurance chômage pour ensuite mieux la privatiser.
Moi c'est ma crainte. Regardez, c'est exactement pareil pour la taxe d'habitation. On supprime les recettes locales, on va remplacer. Alors le gouvernement a dit je supprime 80% de la taxe d'habitation. Quand vous n'avez plus que 20% des gens qui participent au financement des services publics locaux, le consentement à l'impôt il va diminuer, donc la logique c'est qu'on va supprimer complètement cette taxe d'habitation, et le gouvernement dit je remplace à l'euro près, d'accord ? Puisque vous n'avez plus de taxe d'habitation, moi gouvernement je vais vous amener les ressources nécessaires. La semaine dernière, en vacances, je parle avec un maire qui me dit, mais vous êtes naïf ou quoi ? On a eu plein d'exemples de recettes fiscales qui venaient aux mairies et dont le gouvernement nous a dit on va compenser, il compense un an ou deux et après il compense plus. Donc, taxe d'habitation, UNEDIC, il y a une véritable logique globale qui consiste à redonner du poids à l'impôt pour un gouvernement, celui-là ou peut-être un futur gouvernement encore plus à droite qui voudra diminuer les impôts et donc diminuer les investissements dans les collectifs publics, diminuer l'emploi dans les collectivités publiques, diminuer les prestations de chômage. Moi, c'est ma grande crainte.
Donc plus d'impôts pour, à terme, moins d'impôts, Jean-Marc
c'est
Daniel.
C'est ça. Oui, je pense que la logique est effectivement la logique de l'UNEDIC. Pour l'UNEDIC, je reviendrai sur la taxe d'habitation, mais sur la logique de l'UNEDIC, ça n'a de sens que si, effectivement, la nationalisation est un point de passage et vers la mise en concurrence et vers l'efficacité qui est imposée à toute organisation par le fait qu'elle est en concurrence.
La seule logique que ça peut avoir.
Mais j'espère.
Il peut y avoir une logique de meilleure gestion, tout simplement.
Oui, mais qu'est-ce qui prouve que l'État est meilleur gestionnaire que les partenaires sociaux ? L'État, il a un contrôle sur les partenaires sociaux maintenant, encore une fois, par le PLFSS.
C'est beaucoup plus facile d'avoir un levier qu'on peut actionner plus rapidement. Quoi.
Oui. Mais encore une fois, ça n'a de sens à partir de ce moment-là que s'il va jusqu'au bout, s'il a le courage de dire qu'il dissout le régime général tel qu'il est, ou qu'il fait une opération un peu comme ce qu'il a amorcé avec le RSI. C'est-à-dire, il dit je le dissous dans une structure plus large. Et je fais une vague, un opérateur qui n'est plus du tout l'opérateur issu de la tradition.
Personne ne discute de ça aujourd'hui. Jean-Marc Daniel s'amuse là comme un économiste libéral qu'il est, mais personne ne discute de ça aujourd'hui. La privatisation de l'assurance chômage ou de l'assurance maladie.
Personne n'en discute, mais il y a des exemples autour de nous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, encore une fois, la Suisse qui est à portée de...
La Suisse n'est pas la France, Jean-Marc.
J'entends bien.
C'est un petit pays décentralisé. C'est pas du tout la France.
Mais il faut être un grand pays suisse. Décentralisée et nous pouvons effectivement... Il y a 30 ans, personne n'envisageait que le ministère des PTT disparaisse. Et regardez ce qu'il est devenu. Donc je pense que ça va dans le sens de l'histoire. La deuxième chose, c'est effectivement dans l'histoire de la taxe d'habitation, on voit bien qu'un des problèmes aussi de notre fiscalité, c'est qu'elle a beaucoup vieilli. C'est-à-dire elle est l'accumulation d'une histoire qui est assez compliquée. Et donc la taxe d'habitation, c'est jamais que le dernier avatar des anciens impôts qui avaient été conçus à la fin du XVIIIe siècle. Et elle est assise sur des valeurs locatives, normalement, que personne n'est en mesure, sur le plan politique, de revoir la grille de référence de 1966. Elle avait été remise en ordre en 1986 par Juppé. Et la première chose qu'a décidé Charras, quand il est devenu secrétaire d'État au budget, c'est d'aller voir Mitterrand en disant « Il paraît que Rocard veut s'engager dans les réformes, puisque Rocard voulait faire des réformes. C'est totalement irresponsable. On ne touche pas à la taxe d'habitation et aux valeurs locatives. » Et donc, c'est toujours pareil. Dans ces cas-là, la bonne solution, c'est quand on peut pas réformer, on détruit. Donc, on va supprimer cette taxe d'habitation, puisqu'on n'arrive pas à la réformer. Le véritable enjeu, c'est par quoi on la remplace. Si on la remplace par une baisse des dépenses des collectivités territoriales, bon, c'est 20 milliards, un peu plus de 20 milliards, c'est quand même assez important, mais c'est aussi pas totalement inutile.
Les deux tiers de l'investissement public. Et donc, si déjà la France, l'OFCE a bien montré qu'en termes d'investissement public, la France est très en retard par rapport à ses voisins européens et au reste des grands pays industrialisés. Donc si on coupe complètement dans les recettes des collectivités locales, on coupe dans l'investissement public et la France prend 10 ans de retard par rapport aux autres pays.
Vous disiez tout à l'heure, Christian Chavagneux, que ce sont des mesures, alors la taxe d'habitation, mais peut-être aussi d'ailleurs cette hausse de la CSG compensée donc par la suppression des cotisations salariales, enfin de certaines cotisations salariales, que ça pouvait avoir un impact sur l'adhésion
à l'impôt.
Sur le consentement, ouais, pardonnez-moi, à l'impôt. Quel lien vous faites justement entre ces mesures et un moindre consentement?
Quand vous avez, si on prend la taxe d'habitation, si vous laissez seulement à 20% des gens le soin de financer les services publics collectifs, locaux, les écoles, la police municipale, etc., etc. Alors, au bout d'un moment, vous dites pourquoi moi je paierais alors que ceux qui sont à côté de chez moi et qui bénéficient exactement des mêmes services publics locaux ne paient pas. Donc vous avez plutôt intérêt à vous dire j'ai peut-être essayé de pas déclarer mon agrandissement, de pas faire ceci, de pas faire cela, essayer d'échapper à la taxe d'habitation. C'est bien pour ça que le gouvernement nous a dit que c'est 80%, mais qu'à terme c'est sûrement l'intégralité de la taxe d'habitation qui serait supprimée.
Est-ce que ça veut dire qu'on est en train là aussi de changer de logique de manière assez globale, c'est-à-dire qu'on va vers un système où on sera peut-être plus incité, par exemple, à couvrir un certain nombre de risques dans des assurances privées, par exemple? Parce que...
Pas pour l'instant. Je ne pense pas que le gouvernement aille aussi loin. En tout cas, sur un premier mandat d'Emmanuel Macron, je pense que peut-être que c'est une transition.
Vous anticipez déjà le deuxième ou...
vers un éventuel deuxième. Je pense que sur les premières cinq années, c'est difficile d'aller jusque-là. Je pense que la France n'est pas prête à privatiser, en dépit de ce que dit Jean-Marc, toutes les privatisations d'eau, d'électricité, de rails qu'on a eu autour de nous n'ont pas du tout fonctionné. Les coûts ont augmenté, les services
diminué. Même sans privatiser, mais en tout cas peut-être inciter à aller chercher... en dehors aussi du système, par exemple, de protection sociale, d'autres façons de couvrir les risques auxquels on est confronté.
Ça, c'est le grand rêve, oui, effectivement, de beaucoup de politiques libéraux, que de développer ce qu'on appelle le financement, dire aux Français qu'ils ne doivent pas mettre leur épargne dans l'immobilier, mais mettre leur épargne dans le financement des entreprises, prendre un peu plus de risques, développer des fonds de pension, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, la crise de 2008 a bien montré, avec les gamelles que sont prises les fonds de pension à l'étranger, que c'était extrêmement risqué de passer au financement de la retraite ou de la sécurité sociale par des institutions privées. Donc là, je pense que le gouvernement français, il n'y est pas prêt. Malheureusement, et pour répondre encore à votre question sur le consentement à l'impôt, il y a le côté taxe d'habitation, mais il y a le côté diminution des impôts sur les riches. Et c'est là que le consentement à l'impôt, me semble-t-il, va être encore plus atteint lorsque vous voyez que plus vous gagnez d'argent, et moins vous allez payer d'impôts avec les mesures qui ont été prises sur le capital et les revenus du capital.
Elle est peut-être là, la logique, justement, de la politique fiscale du gouvernement.
La politique fiscale du gouvernement, c'est de considérer qu'effectivement, quand un impôt devient confiscatoire, quand il est concentré sur une petite partie de la population, cette petite partie de la population étant présentée comme étant riche et donc comme étant taillable et corvéable à merci, ce consentement à l'impôt fait défaut. C'est-à-dire que cette partie de la population s'en va. Et donc, le consentement à l'impôt, il est remis en cause de façon très, très pratique par l'attitude de la population. C'est-à-dire, vous avez un exil fiscal, plus un exil fiscal interne, c'est-à-dire de plus en en plus de gens qui se considèrent en droit de frauder le fisc, plus des révoltes fiscales. C'est-à-dire que on a oublié, mais enfin, le délire fiscal de Hollande s'est traduit par les bonnets rouges, c'est-à-dire la réévocation par une partie de la population d'une révolte fiscale du XVIIe siècle. Et je pense qu'on est dans une situation, d'ailleurs pas qu'en France, hein, puisque il y a une lecture de ce qui se passe en Catalogne, une lecture de ce qui peut se passer dans le nord de l'Italie, où il y a cette idée qu'on est arrivé à un niveau d'impôt qui est un niveau d'impôt qui est à la fois trop élevé et trop concentré sur une partie minime de la population. Je vais prendre un exemple très simple sur la cotisation et sur l'État-providence et tout ça. Notre gouvernement en ce moment annonce qu'il va prendre des mesures pour favoriser le développement de Paris, place financière, avec la perte d'influence de Londres à cause du Brexit. Et parmi les mesures qui sont annoncées, il y a l'idée que les gens qui viendraient s'installer à Paris ne seraient pas obligés de s'inscrire à la sécurité sociale française, mais ils pourraient garder un système, y compris s'ils étaient français, mais s'ils ont vécu un certain temps en Angleterre, garder la possibilité de prendre un système d'assurance privée pour couvrir leurs risques santé et d'adhérer à un système de retraite par capitalisation. Donc on voit bien que...
Ça va quand même à l'encontre de notre système de solidarité,
ça veut dire que le gouvernement a bien conscience que pour la population qui a vécu en Angleterre, l'idée d'avoir un système monopolistique, centralisé, de la sécurité sociale avec des cotisations, et dont le ministre de la Santé nous dit qu'un tiers des actes médicaux sont inutiles. C'est-à-dire qu'on a un même gouvernement qui est là en face d'un monstre sur le plan économique et social qui est la sécurité sociale et qui constate qu'il est d'une inefficacité assez tragique. Un tiers des actes médicaux sont inutiles. Il y a un véritable problème. Et donc, je pense que le gouvernement, effectivement, prépare une adaptation de ce système et que les quelques mesures qui sont prises, pour moi, c'est pas une crainte, c'est un espoir, prépare la mise en concurrence, la redéfinition de l'efficacité de ce système par davantage de concurrence.
Donc, ce que vous nous dites, Jean-Marc Daniel, c'est s'il y a un problème de consentement à l'impôt, c'est parce que cet impôt devient confiscatoire.
Exemple existe fiscal. Alors, je vais décevoir Jean-Marc, mais les dernières stats de Bercy nous disent qu'il y a entre 700 et 800 contribuables assujettis à l'ISF qui partent, c'est-à-dire 0,2% des contribuables qui partent. Donc, il n'y a pas du tout d'exil fiscal, il y a quelques stratégies individuelles. C'est un pipeau général des économistes libéraux de la France est un enfer fiscal, donc tout le monde s'en va. Ça n'existe pas, 0,2% des assujettis à l'ISF. Et pourquoi ils partent pas? Parce que regardez ce que nous a donné le Canard Enchaîné à l'été 2016. Rappelez-vous cette liste des 50 plus gros contribuables de France, dont 11 ne payaient zéro ISF, pourtant les plus riches de France, et dont en général, 9,7%, disons 10% de l'ISF était payé. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus autant de Johnny Hallyday, paix à son âme, ou d'Elisabeth Taylor qui s'installait en Suisse pour moins payer d'impôts. Les conseillers fiscaux d'aujourd'hui vous indiquent comment moins payer d'impôts en restant en France. Lorsque vous mettez en scène votre exil fiscal en Belgique, en Suisse, ou en Russie, ou en Ukraine, où vous voulez, c'est juste du show médiatique. Il faut le savoir. Aujourd'hui, les conseillers fiscaux sont tels que vous restez en France. Il n'y a pas du tout d'exil fiscal. COE Rexecode, quand même. Un think tank patronal qui est pour qu'on diminue les impôts sur les riches, a essayé d'estimer ce que coûtait à la France ce soi-disant exil fiscal. Ils nous ont dit 150 millions de recettes d'ISF par an. Je vous rappelle que avant que Macron intervienne, on avait 5 milliards de recettes. 150 millions, 5 milliards. Donc c'est rien du tout.
Bon, cela dit, l'ISF disparaît. Il est transformé en impôt sur la fortune immobilière. Ça, c'est ce qui reste de l'ISF. Le reste, c'est un prélèvement forfaitaire unique, le PFU. 30% sur les revenus mobiliers. C'est une flat tax, c'est un impôt proportionnel. Est-ce que là, vous y voyez aussi une forme de logique global?
La logique, elle est très claire. On redistribue aux riches. C'est extrêmement clair. Pourquoi? Parce que les deux tiers des ménages dont le patrimoine financier est supérieur à 2 millions d'euros ont des placements financiers. Donc ce sont ceux qui ont plus de 2 millions d'euros qui vont en profiter. Et plus vous êtes haut dans les revenus, plus la part de votre épargne consacrée aux placements financiers est importante. Plus vous touchez des intérêts, des dividendes, plus vous faites de plus-value.
Ce sont des placements productifs, c'est ce que dit le gouvernement.
Pas du tout. Aujourd'hui déjà, on sait que 2014, c'est la dernière stat que nous donne l'INSEE, les placements financiers représentaient déjà 71% du patrimoine des 1% les plus riches, 84% pour les 30 000 ménages les plus fortunés, les fameux 0,1% les plus riches. On met pas tous ces œufs dans le même panier. Vous avez déjà beaucoup de placements financiers. Si vous avez moins d'impôts et plus de revenus, vous allez pas encore les mettre dans les placements financiers. De même, rien ne dit que les entreprises, parce que on nous dit les entreprises qui étaient obligées face grâce à la fiscalité des dividendes, de donner plus de dividendes à leurs actionnaires pour compenser la plus haute fiscalité française, vont pouvoir distribuer moins de dividendes et donc investir. Rien ne dit qu'ils vont investir. Beaucoup d'entreprises vont distribuer plus de dividendes, faire des rachats d'actions, etc. Donc vraiment rien, il n'y a pas de lien. Et on peut même faire un petit graphe. Je me suis amusé à faire un petit graphe dans Alter Eco entre le niveau de la fiscalité du capital et la compétitivité et l'investissement productif en France. Il n'y a aucun lien, aucun.
Peut-être que 30% sur les revenus mobiliers, c'est encore trop haut pour favoriser cette...
Les 30%, je les valide parce que Christian Chavagneux a une lecture un peu sélective des travaux de CEO Rexecode. Parce que ces 30% sont issus d'un travail qui avait été fait par CEO Rexecode, qui a été publié sous l'intitulé de signature de Michel Didier, qui expliquait bien que effectivement la fiscalité du capital était devenue confiscatoire et que donc la seule façon de redynamiser la croissance économique, c'était d'avoir une fiscalité du capital simple, lisible et avec un taux qui était un taux qui avait été fixé donc par ce rapport et par cette proposition à 30%.
Raisonnable pour.
Et donc, c'était partagé d'ailleurs par le candidat Fillon et le candidat Macron. Donc, c'est une sorte de mesure.
Ça, c'est sûr.
Qui correspondait à une sorte de ce que Alain Mec appelait le cercle du bon sens. Bon. Et deuxième remarque, concernant les dividendes, si les dividendes sont aussi scandaleux, pourquoi est-ce qu'on ne va pas les chercher au profit des régimes de retraite en créant des fonds de pension? Parce que les fonds de pension, c'est une façon d'être associé au devenir de l'entreprise et de percevoir une partie des dividendes, sa vie des dividendes, les fonds de pension. Et donc, si on veut véritablement davantage associer la population aux dividendes et éviter que les dividendes ne se concentrent sur une petite partie
de cette population... C'est l'intéressement à la participation qu'il faut augmenter, Jean-Marc.
Mais il faut créer des fonds de pension. Et les fonds de pension, ça devient un système à la fois de financement de l'économie et d'association systématique de l'épargne au développement des entreprises. Enfin, le dernier élément sur lequel j'insisterai, il faut être très très souple dans la façon dont circule l'épargne. C'est-à-dire que le dividende, c'est aussi un moyen de prendre une partie de l'épargne dans certaines entreprises pour le faire réinvestir dans d'autres entreprises. C'est-à-dire que l'idée que l'investissement doit rester dans une entreprise, c'est l'idée que le tissu productif ne doit pas évoluer. C'est-à-dire que c'est toujours les entreprises qui doivent investir, l'entreprise qui existe qui doit investir. Or, l'avenir de l'économie, c'est de faire en sorte que les nouvelles entreprises soient portées par des investissements. C'est-à-dire qu'on distribue de l'épargne sous forme de dividende à des gens qui vont investir dans les nouvelles entreprises.
Il faut garder une forme de proportion, Jean-Marc. Au milieu des années 80, les entreprises dépensaient deux fois plus en investissement qu'elles ne distribuaient de dividendes. Aujourd'hui, elles dépensent deux fois et demi plus en dividendes qu'elles n'investissent. On est en train de plomber l'avenir économique de la France avec ce genre de politique.
Non, parce que ces dividendes, encore une fois, sont remis en circulation vers des nouvelles et des jeunes entreprises. La grande idée de toute cette politique, cette thèse des premiers de cordée, c'est l'idée qu'effectivement, on a une vision statique de ce qui se passe. C'est-à-dire, baisse l'ISF, quand on baisse les impôts, les gens qui reçoivent qui ne paient pas autant d'impôts qu'ils le payaient auparavant, la question ne se pose pas en ces termes-là. C'est est-ce que par ce biais-là, on les incite pas à être davantage actifs, d'être davantage imaginatifs?
En France. Non, mais en France, vous n'êtes pas sûr que cet argent va rester en France?
Non, mais je suis pas sûr que cet argent va rester en France, mais je suis sûr d'une chose, c'est que les gens, ayant la conviction qu'on ne voit pas leur prélever de façon abusive le fruit de leur travail, vont se mettre à davantage travailler, à davantage faire preuve d'audace.
S'il n'y a pas de lien avéré, donc pour vous, si j'ai bien compris, Christian Chavagneux, entre en gros la politique fiscale et puis ses performances dans les outils de production, ça veut dire que l'impôt, ça sert à quoi? Il est censé servir à quoi? À réduire les inégalités?
Oui, normalement, c'est l'une de ses missions. On finance les services publics, ça sert à réduire les inégalités. Et là, très clairement, on a un choix assumé du gouvernement d'augmenter les inégalités par une réduction de l'imposition sur ceux dont les revenus sont les plus élevés et qui se permettent de les placer en placement financier. Rappelons qu'à l'inverse, les trois quarts des Français qui ont moins de 7 500 € de patrimoine ont un livret A. Et ce livret A, normalement, la rémunération du livret A est calculée par une formule sur laquelle, pour la dégager de toute décision politique. Cette formule nous disait en août dernier qu'on devait passer la rémunération du livret A pour la majorité des gens de 0,75% à 1%. Le gouvernement a imposé qu'on reste à 0,75%. Donc vous avez d'un côté, pour les gens du bas, une épargne financière de moins en moins rémunérée, l'inflation sera supérieure à 0,75, donc les pauvres vont perdre du pouvoir d'achat sur leur placement financier, les très riches vont gagner en passant au préfu à 30%, c'est vraiment scandaleux.
Jean-Marc Daniel, et pour conclure, étant donné le côté redistributif de l'impôt, est-ce que le premier objectif, quand on pense une politique fiscale, ça ne devrait pas être celui-là, c'est-à-dire la question de la réduction des inégalités?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que l'impôt soit le bon outil. Notre président de la République cite de plus en plus Kennedy, et donc je citerai Kennedy qui disait que le but des communistes, c'est d'abaisser les riches par l'impôt. impôts. Le but des démocrates, de lui, c'était de relever les pauvres en leur donnant davantage de droits et d'égalité d'accès à un certain nombre de fonctions. Et donc je pense que la logique de notre président de la République est plus proche de celle de Kennedy que de la confiscation et de l'abaissement des riches.
Eh bien, nous allons méditer cette phrase de John Fitzgerald Macron, grâce à vous, Jean-Marie Daniel. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Jean-Marie Daniel, je rappelle votre livre « Les impôts, histoire d'une folie française » chez Talendier, avant le prochain qui devrait arriver vite. En général, il y en a au moins un par an.
Trois par an.
Vous sous-estimez. Christian Chavagneux est beaucoup plus modeste. On peut vous lire, en revanche, tous les mois dans « Alternatives économiques ». Merci à tous les deux. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richer, Marine Beccarelli, Leïla Saïdi, Antoine Dulster. Émission réalisée par Alexandra Longuet, avec à la prise de son Julien Calvas. Demain, mais demain on ne sait pas, il faut d'abord parler de ce soir. Arnaud Laporte,
si vous voulez pas que je vous pose la question.
Mais si, j'aimerais bien.
Je vais vous mettre demain de ce côté le CD et DVD de Marc Itzrad, puisque je sais que comme moi, vous les avez beaucoup écoutés.
Ah, si vous faites
jeune
ça,
homme.
Ouais.
Voilà, on parlera de Marc Itzrad, d'Eminem et de Jim James tout à l'heure. Et dans Du Grain à Moudre, demain, Hervé Gardette.
On va encore parler d'économie avec la question suivante. L'économie collaborative est-elle en voie de désubérisation?
Ah, il faudrait que je comprenne déjà le titre, mais j'écouterai demain pour tout comprendre. Merci beaucoup, Hervé Gardette. 19h, France Culture, les titres d'actualité avec Aurélie Kiefer.